On va démarrer. Merci d'être venu ce soir. Nous sommes très très heureux d'accueillir Judith Bérignon pour son livre « Victor Hugo vient de mourir » qui vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste. Donc Judith Bérignon, vous êtes l'auteur de nombreux livres, d'ailleurs de nombreux livres où vous avez accompagné l'écriture sous forme d'entretien, entre autres. Alors très récemment, entre autres, le livre avec Marceline Loridon-Evans, qui a connu un très grand écho au début de l'année. Mm-hmm. Vous avez commis au moins 2 années de suite des grandes traversées sur France Culture, ouais. L'une sur, j'ai oublié son nom, Sinatra. Le chanteur, merci, l'une sur Sinatra et cet été sur Woody Allen. Mm-hmm. Ça me semble intéressant dans la mesure où je pense que cette idée de compagnonnage, d'y être, sans y être, etc., est quelque chose qui est présent dans le livre que vous avez écrit cette fois-ci. On verra de quelle façon. Et ce qui me semble aussi très intéressant, nous l'évoquions juste avant de commencer la conférence, il y a une grande vogue depuis pas mal d'années en France de la biographie romancée ou de la vraie ou fausse vie et qui souvent en fait est un peu une béquille d'auteurs en mal de sujet. Moi, ce qui me semble une très grande réussite de ce livre, c'est que, et afin de détromper tout le monde, ce n'est pas une biographie de Victor Hugo. C'est à peine, et on verra sous quelle forme, une biographie des derniers moments de Victor Hugo. De mon point de vue, c'est un vrai travail littéraire, peu importe qu'il y ait marqué ou non roman sous la couverture, dans la mesure où c'est un travail d'élucidation, c'est un travail qui permet de rendre intelligible un moment très particulier qui est celui de la mort de Victor Hugo. Moi, ce qui me semble vraiment l'objet du livre, c'est qu'est-ce que ça fait Victor Hugo ? Qu'est-ce que ça fait à ses proches ? Qu'est-ce que ça fait à la République ? Qu'est-ce que ça fait au temps, au pays, aux penseurs, aux acteurs, aux ouvriers, à la famille, etc. Et ce qui est très impressionnant dans le cas de Victor Hugo, c'est vous montrer il y a un effet. C'est comme une ombre qui plane sur l'ensemble du livre et sur l'ensemble de la vie de Victor Hugo et qui produit tout un tas d'effets très différents selon les gens. On verra au fur et à mesure quels ils peuvent être. Et l'autre point, parce qu'en fait le cœur du livre, c'est 2 choses, c'est l'agonie de Victor Hugo et puis c'est surtout l'organisation et le déroulement des obsèques, des funérailles. Or, les funérailles de Victor Hugo, ça fait partie de ces moments qui ont été, on va dire, d'une façon vitrifiée dans la mémoire collective et dans les souvenirs qu'on peut avoir des enseignements d'histoire à l'école. Tout le monde, à un moment, a entendu parler de ce grand moment de communion républicaine qu'ont été les funérailles de Victor Hugo, avec l'idée que c'est un moment d'unanimisme pur. Et c'est le moment, alors c'est 85, c'est-à-dire que la République est toute jeune, en fait. Elle se fonde là, enfin, y a un côté, une vision un peu lavisse de la mort de Victor Hugo. L'un des grands intérêts de votre livre, outre, je trouve, son élégance d'écriture, c'est de redonner toute l'épaisseur à ce moment et montrer comment, au contraire, ça a été un moment de formidable tension dans la société française. C'était un moment d'appréhension de la part du pouvoir puisque la Commune n'est que 15 ans en avant, et puis avec la position, on le verra, un peu compliquée de Victor Hugo par rapport à la Commune, et le rapport compliqué aussi des communards ou des anciens communards par rapport à Victor Hugo, et puis même une tension entre les gens eux-mêmes de savoir ce qu'il fallait faire, quelle attitude avoir, etc. Et moi, dernière chose avant de partir sur les questions, l'une des choses qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est que ça m'a évoqué, moi, l'un des textes de Victor Hugo que j'aime le plus, qui est un texte particulier, qui sont Les choses vues. Oui. Qui est un vrai faux livre, hein, au sens où c'était un journal, mais Victor Hugo étant ce qu'il est, c'est pas du tout un journal intime qu'il n'imaginait pas publier. Il y a toujours un horizon de lecture derrière. Victor Hugo écrit toujours avec un lecteur en tête. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire où sans arrêt, on est entre le fait, la description du fait, qu'est-ce qui se passe précisément, et la phrase flash, la phrase éclair, qui vient synthétiser d'un coup le sens du fait. Donc, alors, peut-être pour commencer, on est, on, on l'évoquait aussi un peu en s'amusant, puisque les biographies sont souvent liées à des moments d'anniversaire. Or, il n'y a pas d'anniversaire, enfin, sauf à tirer un peu les choses. Ce sont les 130 ans de la mort de Victor Hugo qui n'ont pas été célébrés comme alors ils auraient dû être. Ce seraient les 150 ans si on s'en tient au dernier tome de la publication des Misérables. Mais qu'est-ce qui vous a... Pourquoi Victor Hugo? Avant de parler de l'effet qu'il produit sur les autres, sur vous, pourquoi prendre ce sujet-là?
Ben parce que je pense que justement c'est lié, moi j'étais curieuse de cet effet sur les autres pour comprendre cet effet qu'il a toujours eu sur moi. Parce que ce qui s'est passé dans cette fin du 19e siècle annonce ce que Victor Hugo la place qu'il va occuper. Et moi Victor Hugo je l'ai installé dans mon panthéon quand j'étais petite fille. C'était le grand homme, c'était l'alliance de l'écriture, du courage politique. Et donc, je pense que c'était une vieille idée, ce livre. Je tournais autour de cette idée, justement, ses funérailles étaient un peu vitrifiées. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver dans les archives. Et donc, l'essentiel de ce livre, je ne m'attendais pas à l'écrire de cette manière. Mais je voulais comprendre pourquoi tous ces gens étaient là. Et qu'est-ce qu'il avait noué avec eux? Et ce qu'il avait noué avec eux expliquait une partie de ce qu'il avait pu nouer avec moi et avec nous autres des siècles plus tard. Quoi. Donc c'est lié, en fait, les autres et moi, je pense.
Et du coup, parce que donc, la bibliographie sur Hugo est plus que pléthorique, hein, cette volonté de s'intéresser aux funérailles, est-ce que c'est une façon justement d'y toucher sans y toucher? C'est-à-dire d'être sur Hugo sans y être. Et comme vous le disiez, ce qui est très impressionnant, c'est aussi le travail sur les archives. Qu'est-ce que vous avez, qu'avez-vous consulté comme type d'archives? Qu'est-ce que ça vous a révélé? Où est-ce que vous êtes allé les voir? Comment ça a fonctionné cette partie de votre travail?
Alors j'avais vraiment envie de... J'ai rien lu avant, j'ai pas lu de bio de Victor Hugo, je connaissais les grandes lignes de sa vie, mais j'avais certaines zones d'ombre, je fonctionnais, je partais vraiment de mon propre lien, ma propre sensibilité, donc je voulais aller aux archives brutes, je voulais pas passer par des livres déjà écrits, par des historiens. Donc il y a eu plusieurs endroits, mais il y a eu quand même deux endroits qui ont été décisifs pour ce livre. Ça a été les archives de la préfecture de police de Paris. Qui veut peut aller aux archives des préfectures de police, consulter, retrouver la trace d'un parent ou retrouver l'histoire d'un fait divers. Et ben les funérailles de Victor Hugo, on m'a sorti un épais dossier comme ça. Mais tout est filoché, un peu déchiré, un peu jauni, tel qu'il avait été refermé, je pense, à la fin de l'année 85. Quoi. Et alors consulté depuis par des tas de gens, mais tout était un joyeux bazar avec des rapports d'indics, avec des vieilles coupures de presse, avec tous ces rapports. C'est la police, donc évidemment, le brigadier fait un rapport au commissaire, le commissaire qui fait un rapport, tout ça monte jusqu'au préfet, au ministre de l'Intérieur. Mais en plus, cette littérature policière, elle est formidable pour un romancier parce qu'il y a l'heure, il n'y a pas de fioritures, quoi. C'est les choses, les mini-détails. Les livres d'histoire, ils finissent par oublier les détails parce qu'ils sont obligés de garder le sens des choses et les grandes lignes. Donc là, on est dans l'événement tel qu'il a été perçu le jour même. Et ça, c'est une mine. Et c'est effectivement là que j'ai compris, par rapport à ce que vous disiez sur la vitrification de l'événement, ce grand moment d'unanimité républicaine, que ça a été un grand... Si le dossier était aussi épais, c'est que la police était sur les dents et qu'effectivement, il y avait une crainte d'un soulèvement populaire. Et on surveillait tous les quartiers nord-est de Paris qui étaient en pleine... Paris était en pleine industrialisation, donc il y avait un prolétariat urbain qui s'installait. On n'était déjà plus dans les misérables tels que Victor Hugo les racontait. On était dans la classe ouvrière qui s'organisait. Les chambres syndicales étaient autorisées depuis peu de temps. Le retour des communards depuis 5 ans plus tôt, en 80, la montée des idéologies communistes, anarchistes, ça bouillonnait. Et quelque chose se passait, ça bouillonnait dans ces quartiers où on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on va faire le jour des funérailles. Est-ce qu'on en profite pour faire un soulèvement? Mais au fait, est-ce qu'il était avec nous? Est-ce qu'il n'était pas avec nous? Et tout ça, il y avait des indices dans toutes ces réunions. C'est des feuilles vierges qui sont signées de numéros 23, 5, 30. Alors, au début, moi, je pas historienne, j'étais un peu intriguée, puis je lisais, donc 23 était à la réunion, je sais pas moi, des libres penseurs de la Goutte d'Or, la veille, dans un débit de tabac, et alors c'est une mine incroyable, quoi. Et donc la surveillance était générale, et de cet épais dossier, j'ai tiré un personnage que j'appelle 23, parce qu'il a existé, même si c'est un indique, donc on a pas du tout d'informations sur lui. J'ai vu aussi, par exemple, ce Fégé qui est dans le livre, parce qu'encore une fois, c'est un roman, c'est pas un livre d'historienne. Fégé, c'est un brigadier qui est en bas chez Victor Hugo. Et donc, tandis qu'il agonise, il y a des rapports médicaux et les bulletins médicaux deviennent des rapports. Et Fégé fait ses rapports comme ça. Il finit toujours par calme parfait, Fégé. Donc Fégé, à force de voir ses rapports, il a commencé à m'intriguer. Donc j'ai demandé le dossier de Fégé, parce qu'on a un dossier administratif, un simple brigadier. Et avec tout ça, c'est une langue très clinique, très simple, et en même temps, il y a plein de petits détails. Il y a des chiffres, il y a des dates. Et j'ai commencé à mesurer la tension de ces jours-là et à me nourrir, effectivement, de beaucoup de choses qu'il y avait dans ces vieux, vieux dossiers. L'autre endroit, c'était plutôt la maison Victor Hugo, donc qui est Place des Vosges. C'est une maison qui est devenue un musée. C'est une maison, c'est pas du tout là où il est mort, même si c'est là qu'ils ont reconstitué la chambre mortuaire. C'est la maison qu'il a habitée plutôt jeune, dans les années 1840, avec ses enfants, avant tous les drames familiaux d'ailleurs. Et dans cette maison, ben, il concentre beaucoup de choses, les photos de l'enterrement, mais aussi toute la correspondance qu'il y a eu, que la famille a reçue. Et c'est des grandes boîtes, on met des gants, on a vraiment l'impression d'être dans une bulle et on bascule dans le passé. Et dans ces grandes boîtes, j'ai trouvé, alors les cartons d'invitation, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus touchée, c'est que j'ai trouvé ces lettres que j'utilise dans le livre également, qui sont des lettres, comme le gouvernement va faire en sorte que ces funérailles se passent un lundi et pas un dimanche, enfin va faire en sorte que la partie la plus estimée, la plus dangereuse de la population ne soit pas à ces funérailles, les gens écrivent à la famille, et ces ouvriers écrivent des lettres magnifiques, vraiment magnifiques, à Édouard Lecroix, le gendre par alliance, en le suppliant d'intervenir auprès du gouvernement pour que ce se passe un dimanche et qu'il puisse être là. Et elles sont très très belles, ces lettres, et on parlait du lien de ces gens à Victor Hugo et à cette époque-là, ou même à la nôtre. Et on voit hein, les liens d'une partie de gens qui sont à peine lettrés. Hein. Je pense qu'ils ne lisent pas Victor Hugo. On voit dans leurs lettres, elles sont écrites à plusieurs. Alors les lettres sont très bien dessinées, mais c'est plein de fautes d'orthographe. Hein. C'est des gens qui ont un rapport à l'écriture très compliqué. Mais ils supplient Lecroix de faire pression sur le gouvernement pour être là. Et ces lettres, alors les pièces manuscrites, en plus, quand on les a entre les mains, les lettres, on a toujours l'impression que ça a été écrit la veille. Ce n'est pas encore reproduit, ce n'est pas encore traité. Et c'est comme si, elles sont toujours très très fortes ces lettres. Et ces gens-là disent tellement du lien de gens qui ne lisaient pas, qui sont à peine alphabétisés, à un poète. Et ça, pour moi, c'était le cœur du livre.
Alors, vous dites, je n'ai pas fait œuvre d'historienne, c'est un roman. Est-ce que c'est un roman par défaut, au sens où c'est un roman parce que vous ne faites pas œuvre d'historienne, ou qu'est-ce qu'il y a, selon vous, qu'est-ce qui fait... moi, j'ai évidemment mon opinion sur la question, mais le caractère romanesque du livre, c'est simplement le fait de faire parler des personnes sans être sûr de ce qu'ils disent, ce que vous leur faites dire. Qu'est-ce qui fait que c'est un roman et que c'est la littérature pour vous ?
C'est que, effectivement, tout ça, je les mets en mouvement. Je les mets en mouvement, un tout petit personnage, celui que l'histoire ne peut pas retenir, moi, j'en fais un personnage central. Je lui donne la parole j'ai l'impression de les animer. Et finalement, c'est vrai que je n'invente rien, mais j'imagine des scènes avec eux. Donc, quand je vois que des ouvriers... ce moment-là est un moment important dans le rapport de la République à l'Église, hein, puisque Victor Hugo refuse l'Église et le gouvernement décide qui sera inhumé au Panthéon. Donc quand je lis que des ouvriers vont à 5 heures du matin aller décrocher la croix au-dessus du Panthéon, ça c'est une phrase dans le journal. Moi, en tant que romancière, je peux décider d'être avec ces ouvriers sur le toit du Panthéon à 5 heures du matin et imaginer ce qu'ils ressentent. La tension, enfin on les envoie là à 5 heures du matin parce qu'il y a eu des rixes la veille entre les cléricaux et les anticléricaux. Donc moi j'imagine que ces gens-là et ces ouvriers de la ville de Paris, ils sont très fiers d'avoir été choisis. Le jour se lève, on peut imaginer le bruit, voilà. Alors après, bon, les cases, roman par roman, moi ça m'importe peu, mais j'aime le souffle du roman et je voulais sentir le souffle de ces gens-là. Et le roman permet ça, quoi.
Alors, avant, pour faire la palissade, avant que de mourir, il était encore en vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui, selon vous, avant que les choses ne se mettent vraiment en œuvre. Vous dites au début, seules les guerres et les catastrophes ont cet effet-là. Pourquoi les choses se cristallisent sur Victor Hugo ? Enfin, comment s'est construit ce personnage ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les choses sont un peu ambivalentes, au sens où d'abord, il y a eu l'anniversaire, je ne sais plus si les 80 ans ou les 82...
Il est entré dans sa 80e année, je crois.
Voilà, donc il y a déjà eu une sorte de prêt...
Déjà, il y a eu la pompe et des fêtes nationales.
Exactement, ouais. et à la fin, sur la fin de sa vie, Victor Hugo organise... Enfin, organise. Si ce n'est organise, au moins jouit complètement. Il aime les honneurs, il aime être célébré, il aime être. Enfin, il est à la fois Victor Hugo et il joue à être Victor Hugo. Mais pourquoi Victor Hugo ? Pourquoi ça crée ça autour de lui ? Comme vous dites, est-ce que ceux qui lui écrivent l'ont lu ? Comment se constitue ce personnage ? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ?
Je crois que Victor Hugo ne serait pas devenu ce qu'il est à sa mort et ce qu'il est encore aujourd'hui s'il avait. Il n'était pas parti en exil pendant 20 ans. C'est un homme d'abord qui commence plutôt royaliste. Sa mère est royaliste, son père officier de l'Empire. Il commence plutôt jeune conservateur, poète romantique. Et il ne va cesser d'évoluer sa conscience politique, et il le dit lui-même, n'a cessé de bouger et d'évoluer vers de plus en plus de radicalité. Il dit même qu'il finit démocrate, républicain, socialiste. Et donc, il accompagne ce 19e siècle, qui est un siècle fou, où la France digère la Révolution, alors fait des grands pas en arrière, puis revient. Et Hugo, il va accompagner tout ça. Il va accompagner et éclairer tout ça. Donc, il va devenir le penseur des hésitations et des évolutions françaises. Et quand il va partir en 51, quand il choisit l'exil et va, depuis son exil à Guernesey, écrire contre Napoléon III, il fait acte de courage. C'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans le grand poète, l'écrivain, il incarne le courage politique. Et c'est la fusion des deux grandes fiertés françaises que sa littérature et le courage et l'héritage de la Révolution. Parce que le dernier roman qu'il écrit, d'ailleurs, 93, est une réflexion et sur la Commune et sur la Révolution. Et il essaie de digérer, comme la France a toujours essayé de digérer, cette Révolution.
Oui, alors, parce que vous l'évoquez, le rapport à la Commune, c'est assez intéressant. Parce que d'abord, on voit que c'est avec, on va dire, le Victor Hugo lui-même, l'autre ombre qui plane et qui obsède complètement le pouvoir politique et policier. Enfin, qui d'ailleurs... fusionne, puisque la crainte permanente, c'est que ça recommence et que Paris ne soit pas guéri de cette fièvre qu'il a reprise au 19e quasiment tous les 20 ou 30 ans. Ce qui est intéressant, enfin, ce que le rapport de Victor Hugo à la Commune est assez étrange dans la mesure où, contrairement à... Alors, on va dire à son crédit, enfin, peu importe la position qu'on a par rapport à la Commune, mais ça n'a pas été un écrivain anti-communard, comme l'ont été un très grand nombre d'écrivains qui vivaient à Paris à ce moment-là. Mais en même temps, vous allez me retrouver la formule, je ne l'ai plus en tête, mais il essaie d'équilibrer les deux, où en gros, il explique qu'il est pour l'idée de la Commune, mais que sa réalisation ne lui convient pas. Enfin,
il y a quelque chose comme ça. Une Commune dans son principe, mais pas dans son application.
Voilà. Et ce qui fait l'objet, alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que il me semble que dans votre livre, on va y venir. Vous exprimez, vous êtes extrêmement présente, sans dire je, mais quelque chose de très présent, et avec deux aspects, moi, qui me semblent intéressants. C'est non pas une déception, mais l'idée que le gauchisme reste le gauchisme et que sa principale qualité, c'est la division, et que sans arrêt, en fait, tout le livre est parcouru des discussions des clubs anarchistes, se disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'il était avec nous, est-ce qu'il était contre nous, drapeau rouge, drapeau noir, etc. Et de l'autre côté, il y a la question de la République. Et ce que je trouve aussi très intéressant pour défaire un peu l'image, espèce d'âge d'or de la République qui aurait été la Troisième République, vous montrez que la République, qui n'est pas encore la Troisième, mais a un côté très ambivalent. C'est-à-dire qu'à un côté, comme si vous étiez un peu déçu presque de ce que vous aviez trouvé dans les archives.
Exactement, ça fait plaisir que vous disiez ça.
Ça donne ce sentiment-là. Il y a un moment où vous faites dire à l'Ocroix une phrase assez belle qui est « Tout le monde a grossi dans cette République ». Et que la République fait grossir, en fait, tous ces anciens révolutionnaires de 48 ou ces anciens, peut-être que, pas communards, mais gens qui ont été l'opposition à Napoléon III. et qui, une fois que les choses sont stabilisées, profitent bien quand même.
Ben, en gros, la première et la Révolution française, c'est la révolution. Ce qui la gagne, c'est la bourgeoisie. Mmh. Et après, la bourgeoisie ne va avoir de cesse de se maintenir. Et à cette époque-là, en fait, c'est la République bourgeoise qui s'installe, qui finalement se met à adorer les fastes de l'Empire. Elle garde tous les fastes, toutes les méthodes de l'Empire, y compris ses indiques. Donc la bourgeoisie, maintenant, n'a de cesse de se maintenir. En face, on réclame, ils appellent ça la révolution sociale. Ils ne sont d'ailleurs pas dans la révolution politique. Ils veulent aller plus loin. Et là, la bourgeoisie arrête le processus, en fait. Et c'est intéressant, même quand on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que c'est que la radicalité en politique. Et Victor Hugo, là où, pour moi, il est très juste... Après, on lui reproche si ça, mais c'est qu'il est pour la radicalité. Il défend toujours l'idée qu'une société a besoin d'utopie, que les sociétés sans radicalité, sans pensée utopique, elles n'avancent pas. Donc, quand il dit « je suis pour la commune dans son principe, mais pas dans son application », c'est qu'il pense qu'à ce moment-là, la France, elle est encore occupée par les Prussiens. Et il dit « je ne veux pas ajouter la guerre civile à la guerre avec l'ennemi étranger ». Donc il est dans un principe de réalité et de radicalité. Et il n'a de cesse de tergiverser. Qu'est-ce qu'il nous faut en ce moment ? Et il a d'autres phrases, je ne les connais pas par cœur, même si je ne le cite pas beaucoup, hein, je ne sais pas du tout un livre qui recite Victor Hugo, mais il dit « par moment on a besoin de révolution, et par moment on a besoin de sécurité ». Et il pense que les sociétés, elles évoluent dans cette espèce d'équilibre très fragile. Et on voit bien qu'à ce moment-là, effectivement, la République s'installe, elle a quelques acquis forts, hein, les chambres syndicales, la liberté de la presse, et en même temps, elle verrouille tout. Elle verrouille tout, et je cite aussi, et j'étais effectivement, je découvrais dans ses archives, mais le monde tel qu'ils étaient en train de dessiner le monde où on vit. Par exemple, je consultais les rapports quotidiens du préfet, donc j'ai pris ces 15 jours, qui sont les sujets du livre, le préfet faisait des rapports quotidiens au ministre de l'Intérieur. Donc, il racontait tel incident, la grève, il y avait une grande grève des tailleurs, là, les derniers événements autour de la mort de Victor Hugo, là, les engueulades à l'Assemblée nationale, et ça finit toujours par la bourse. Et c'était les indices de la bourse, et je me suis dit, déjà, c'était comme ça. Et en fait, effectivement, je partais de loin parce que j'avais l'impression d'un âge d'or. Et en fait, c'était les fondements de cette République dans laquelle on vit et qui, à mon avis, est au bout et finalement est au bout du processus démocratique. Au bout de, il y a une espèce de césure très forte entre le peuple et l'élite qu'on vit aujourd'hui et dont cette société souffre beaucoup et qui est déjà en train de cette peur du peuple qui est si forte alors et elle est déjà là et et la République, elle doit faire avec ça. Alors, elle aura des moments meilleurs, elle aura de ses grands hommes de temps en temps, et parfois, elle fait marche arrière. Et Hugo, lui, il essaye de théoriser ce moment. Il veut travailler sur ce lien avec le peuple. S'il est tant aimé, il est l'auteur des Misérables. Sur leur drapeau, les anarchistes, les anciens communards vont mettre des vers des Misérables, vont mettre des titres de ses livres. Et c'est pour ça qu'il est si populaire. C'est qu'il a vu, il est un auteur bourgeois, un auteur respecté, et il ne cesse de parler des autres, de ceux qui n'existent pas. Et pour moi, ça, c'est fondamental dans ce que représente Victor Hugo plus que tout autre écrivain.
Alors, et on sent qu'il y a un personnage qui, dans votre texte, semble hériter de ça, on va dire, moins l'œuvre, un peu, c'est Locroy, pour lequel on sent que vous avez une sorte de sympathie, au sens où il a ce même tiraillement, c'est-à-dire qu'il est, lui, déjà pris dans « Il est député », il aura même après une carrière de ministre de la Marine, enfin, ça sera une des grandes figures de la Troisième, mais comme vous l'évoquiez au début, c'est à lui qu'on écrit ses lettres. Alors, et on va, du coup, comme ça, aller aussi un peu du proche au lointain de Victor Hugo, et en plus, il est de la famille. Mais il est de la famille d'une façon très étrange, puisque c'est une sorte de compagnon de route intellectuel et politique de Victor Hugo. Il va rentrer dans la famille, vous allez nous dire comment, et c'est presque à partir du moment où il rentre dans la famille qu'il en sort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est plus un ami, mais il devient un parent, Victor Hugo le met à distance et le met dans une situation impossible. Ce qui est très beau chez Locroy, c'est qu'on sent cette tension que vous évoquez entre la fidélité à ce qu'ils ont été jeunes, Et ce qui est en train de devenir la République pour laquelle ils ont lutté pendant les 20 ans de la, les 20 ans du Second Empire.
Ouais. Alors Lecroix, il a plutôt l'âge des fils, hein, d'Hugo, oui. Il était l'ami des fils. Mais le drame de Victor Hugo, c'est d'avoir enterré tous ses enfants avant lui, sauf Adèle, mais qui, elle, est à l'asile et qui est complètement écartée de ses funérailles. Donc, et notamment... L'un des fils d'Hugo, Charles, meurt au début de la Commune d'ailleurs. Et il était marié à Alice, ils avaient deux enfants, Georges et Jeanne. Et quand Charles meurt, donc en 71, Victor Hugo veut absolument que sa belle-fille Alice reste avec lui et il veut les enfants. Donc Alice dit j'habite avec vous, les enfants seront avec vous. Mais cette femme va à un moment refaire sa vie avec Édouard Lecroix, qu'elle connaît, qui était l'ami de son mari, qui était un journaliste très engagé dans Le Rappel, qui est un journal qui est vraiment très le clan Hugo, quoi. Et jusque-là, effectivement, Lecroix, ami des fils, journaliste, républicain, courageux, qui a fait de la prison, il cadrait complètement. Mais Victor Hugo, lui, n'était pas très pour ce mariage. Donc, elle va passer outre Alice. Donc, Lecroix, après, il est en tension permanente. Il ne sait pas où est sa place dans cette famille. Et il n'est pas très sûr de l'estime. Il a pris la place du fils mort, en fait. Hein. Donc, tout à coup, le lien politique est là. Mais le drame familial est derrière. Mmh. Et Lecroix, il souffre de cette place qui ne lui a pas été vraiment accordée. Il a même des difficultés relationnelles avec les enfants, les petits-enfants, Georges et Jeanne. Donc c'est un personnage que l'histoire a un peu oublié, et alors que c'est un député de l'extrême gauche, enfin c'est un député radical de Paris, du 11e arrondissement, des quartiers ouvriers, c'est quelqu'un qui fera beaucoup pour l'édification de la Tour Eiffel aussi plus tard. Donc c'est un homme très tiraillé, pour moi j'ai de l'affection pour lui, parce que si je devais... Après, moi, j'ai travaillé sur ces lettres dont je vous parlais. On voyait dans La Marche, par exemple, ces petites réponses où il mettait « Ai fait tout ce que j'ai pu, espère encore ». Ça lui demandait à son secrétaire de renvoyer des messages à ses ouvriers. Et c'est vrai qu'il a cogné à toutes les portes. Il a écrit des articles que j'ai trouvés dans ses dossiers en disant que finalement, ceux qui devraient être en tête de cortège, c'est tous les proscrits, c'est tous les gens qui étaient les personnages de Victor Hugo. Donc il est allé contre toutes les décisions du gouvernement quant à l'organisation de ses funérailles. Et si ce que j'aime chez Lecroix, c'est qu'à la fois, c'est ce qu'on espère tous d'un homme politique, en fait. C'est des convictions qui ne sont jamais mises de côté et du courage, quoi.
Oui, ce que vous dites, c'est que de même qu'on peut aussi juger que de même qu'il ne trouve pas sa place dans la famille Hugo, jusqu'à un certain point, même si effectivement en apparence il est une figure institutionnelle, il ne trouve pas sa place non plus dans ce qui est en train de devenir la République. Ouais. C'est-à-dire que, comme vous dites, alors qu'il va contre l'ensemble des décisions, et surtout, il fait partie de ceux qui voient très bien l'objet de, enfin, ce que veut faire le gouvernement. Parce que, vous le dites au tout début, mort, cet homme-là servira encore. Tout l'enjeu, c'est que cet effet Hugo, si on veut l'appeler comme ça, l'objet du gouvernement, c'est qu'il le tourne à son avantage. C'est-à-dire, et d'une certaine façon, ils ont gagné, puisque si votre livre, comme je vous disais, va à l'encontre de l'image qu'on a de la représentation habituelle, c'est que la représentation habituelle, c'est celle que le gouvernement a voulu donner à l'époque, c'est-à-dire, tout s'est bien passé. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a tout s'est bien passé, mais tout s'est bien passé d'un seul mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de tension du tout. Or, effectivement, l'objet politique, c'est deux choses, c'est faire en sorte que ça tourne à l'avantage du gouvernement et que ça n'ait pas débordement, et ce que vous dites très bien, c'est que pour ça, en fait, il faut vider Hugo de son sens.
De
sa révolte, exactement. Et toute l'opération, en fait, alors c'est un peu toujours comme ça quand on fait des grandes funérailles à des figures nationales, c'est plus vous couvrez d'honneur et plus vous désamorcez la charge politique, émotionnelle qui est liée à la personne. Et cette opération aussi est d'une certaine façon une opération qui a un peu réussi quand même.
Oui, Hugo apparaît aujourd'hui comme une... Il peut fournir plein de discours officiels. On peut citer Hugo, Hugo, on vous citera, vous trouverez du Hugo dans tous les discours politiques. À la fois, vous trouverez de l'extrême gauche, d'ailleurs, à une droite républicaine. Tout le monde veut Hugo. À cette époque-là, l'Église aimerait bien l'enterrer chez elle, parce qu'elle sent que Hugo partant sans l'Église, c'est une catastrophe pour elle. C'est la grande perdante de ces jours-là, puisque Hugo refuse toute présence de l'Église. Mais sinon, les débats à l'Assemblée montrent que tout le monde, ils votent tous par acclamation les funérailles nationales, ils votent tous ça. Et, parce qu'ils sentent que ce type incarne une idée de progrès, une idée d'espoir, et qu'il faut l'avoir avec soi. Et finalement, effectivement, il le vide de son sens. Et quand, dans les années en 1880, quand il faisait ses discours au Sénat pour l'amnistie des communards, juste avant qu'elle ne soit accordée, au début, il était tout seul. Personne n'en voulait de cette amnistie. On voulait les laisser tous mourir là-bas. Et il était bien seul. Donc c'est un homme, même en vieillissant, justement par rapport à cette évolution politique qu'il a eue, généralement en vieillissant, on se droitise. Et lui, c'est tout le contraire. Et donc cette capacité de révolte qu'il avait et qu'il a eue jusqu'au bout, parmi les derniers textes, il écrit sur les pogroms en Russie. On est dans une France très antisémite. Il est nickel surtout. Il a écrit sur l'esclavage aux États-Unis, il a écrit sur les pogroms en Russie, c'était le dernier texte. Et il est toujours dans la colère, cet homme-là. Et c'est cette colère qu'on veut éteindre, et c'est l'enjeu de cet accaparement, de cette récupération du gouvernement, qui a quelque part réussi. Et souvent, maintenant, je regrette que beaucoup de gens ont souffert avec Victor Hugo à l'école. Et je ne sais pas quand est-ce que dans sa vie, il faut rencontrer Victor Hugo. Moi, j'ai eu cette chance, mais j'ai toujours envie de dire, même aux plus jeunes, mais... Il parle pas, en fait, ça parle à tout le monde normalement.
Alors, vous employez à ce propos deux fois la même formule, une première fois à propos de Louise Michel et une deuxième fois à votre propre propos, en disant il faut lire Victor Hugo quand le cœur est tendre. Ouais. C'est-à-dire quand on a encore quiconque a de jeunes enfants, c'est qu'effectivement, d'abord, ce sont des machines mémorielles, ouais. Et puis tout leur parle. Donc effectivement, vous avez quand même un peu une opinion sur la question qui est que c'est plus aux enfants, c'est par les enfants qu'on peut espérer ce salut-là de Hugo. Et pour, par rapport à cet effet été noir, à la toute fin du livre, on passe après, on va revenir au moment des obsèques, mais il y a une chose qui est très belle, alors je ne sais plus combien de temps après, on retourne, je crois que c'est 15 ans après ou 10 ans après.
Oui, 12 ans.
12 ans après, on retourne au Panthéon, et là, en fait, on se rend compte que le cercueil de Victor Hugo est encore sur les tréteaux de la fête, si l'on peut dire.
Avec des fleurs fanées.
Et ça, je trouve que c'est une très belle image de l'opération des funérailles. Au sens où, en fait, c'est bon, on l'a enterré. Et on lui a trouvé un cercueil somptueux, puisque c'est le Panthéon.
Oui, mais bas, on l'a complètement abandonné sur les tréteaux. Alors aujourd'hui, c'est nickel, mais 12 ans après, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Ce n'est pas 6 mois après, ce n'est pas 2 ans, c'est 12 ans. Il est toujours sur des tréteaux avec les couronnes de fleurs totalement fanées. On n'a pas pris le temps de lui faire sa sépulture. Effectivement, quand je suis tombée là-dessus, au détour encore d'une petite phrase, de rien du tout. Je lis toujours les choses faites à l'époque parce que c'est des mines. Et tout était dit, effectivement, de l'utilisation de ces funérailles par la République. Tout était dit.
Oui. Alors, justement, quittons cette famille un peu singulière, et le cercle suivant, sur lequel vous évoquez souvent aussi, c'est la question de la presse. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on se représente plus ou moins bien, c'est que la presse, les journaux, d'abord, sont à l'époque, si l'on veut parler ce vocabulaire-là, le seul média. C'est-à-dire que le seul moyen de communication massive, c'est celui-là. Et comme toujours dans ces cas-là, ça s'accompagne d'une révolution technique, qui est celle des rotatives, et qui permet les très très grands tirages. Et vous évoquez très bien les batailles que joue la presse, avec déjà des symptômes qu'on retrouve dans le contemporain, qui est... Peu importe la vérité, peu importe ce qui s'est dit, peu importe. Alors, ce que vous évoquiez, l'Église, chacun y va de sa rumeur sur « mais si, c'est la famille qui empêche le prêtre de rentrer. Mmh. Mais non, il a écrit qu'il ne voulait pas, etc. » Est-ce que vous venez nous évoquer comment fonctionne cette presse à ce moment-là?
Oui, alors la presse, elle est partout. Notamment, il y a les crieurs de journaux dans les rues. Je vous en lirai un petit bout, c'est l'ouverture du livre, parce que pour imaginer, c'est l'envers de notre monde, où les kiosques disparaissent les uns après les autres. Il y a des crieurs de journaux partout. Et la moindre petite unité groupuscule peut avoir son journal. Donc d'anciens communards font tourner des petits journaux qui ne leur rapportent rien. Ils y passent toutes leurs maigres économies. L'Église, évidemment, a ses journaux. Il y a tous les anciens, les députés qui sont des anciens républicains, ils sont tous chroniqueurs dans les journaux. C'est le règne de la presse qui est libre depuis 4 ans. Donc on goûte cette liberté et c'est des joutes verbales. Mais c'est beau, quelque part, oui, on éditorialise, on ment, on tord les faits, on s'engueule. Ils sont tous en plus, tandis que Victor Hugo agonise, ben, en fait, il y a 3 cafés qui reçoivent une autorisation particulière de rester ouverts même la nuit parce que tous les journalistes restent là. Il peut mourir d'une heure à l'autre. Il faut être là. Les éditions spéciales sont prêtes, je les ai vues. Enfin, et il y a quelque chose d'une vivacité de la presse qui faisait plaisir à découvrir, en tout cas pour la journaliste que je suis.
Oui, on peut l'imaginer, vu les temps que connaît la presse voilà. depuis une vingtaine d'années. Alors, venons-en au moment des funérailles elles-mêmes. Comme vous l'avez évoqué, donc afin d'éviter tout débordement possible, on met ça un lundi. Pour être bien sûr, donc après, il y a tout un tas de... Alors, et en même temps, le caractère un peu retors du pouvoir fait que on met ça à lundi, mais malgré tout, les administrations sont fermées, les écoles sont fermées, mais par contre, évidemment, les usines restent ouvertes et les fabriques, comme on disait à l'époque, restent ouvertes elles aussi. Mais d'une certaine façon, il y a, vous en faites une très très belle évocation, il y a cette nuit du 31 mai, donc du dimanche soir, ouais. Jour de paye, c'est pas innocent, on va voir pourquoi, qui est que vous décrivez, pas explicitement, mais on comprend ça comme ça, comme une sorte de revanche du peuple qui ne peut pas vraiment être là aux funérailles contre la décision qui a été prise. Qu'est-ce que c'est que cette nuit 31 mai, alors qui pour moi est une découverte complète. C'est pour le coup quelque chose qui est rarement évoqué.
Ouais, en fait, voilà, le cercueil de Victor Hugo est déposé sous l'Arc de Triomphe ce 31 mai au matin. C'est un... Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un dimanche. À 6 heures, à l'aube. Il y a déjà une foule énorme sur la place de l'Étoile. Et l'idée, c'est que les gens vont pouvoir défiler et rendre hommage devant le catafalque. Donc, il y a des milliers de personnes, beaucoup plus qu'attendues. Enfin, voilà. C'est énorme. Et puis, la nuit va tomber, mais les questions, les funérailles nationales ne sont que pour le lendemain. Elles démarreront le lendemain vers 11 heures. Et le cercueil reste là. Donc, une nuit s'organise, les gens restent. Tous ceux qui, alors certains qui pourront être là le lendemain et qui veulent, qui campent là sur les bords des trottoirs pour bien garder leur place, et d'autres qui viennent là parce que demain ils travailleront à l'usine. Et donc effectivement, c'est tout s'improvise. Les prostituées sont là en nombre, l'alcool coule à flot, ça chante. C'est pas triste, c'est très gai même. C'est autant il y a eu un silence quand on approche de l'Arc de Triomphe et du catafalque, mais tout autour. C'est une fête populaire. Pour moi, ils sont heureux d'avoir connu Hugo, ils sentent un événement, ils sont ensemble. Et plus la nuit s'écoule et plus on se laisse aller. Et donc les journaux du lendemain parleront d'orgie, effectivement. Et c'est un moment de laisser aller populaire. Par ailleurs, les mouvements anarchistes et autres sont toujours en réunion pour savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. Oui. La police s'inquiète jamais, beaucoup ça. D'eux. Mais laisse faire le peuple, tant que le peuple s'amuse, boit. Et c'est un... Alors, il y a des étudiants qui parlent d'Hugo jusqu'à pas d'heure. Les prostituées qui se remplissent les poches parce qu'effectivement, il y a du client, en veux-tu, en voilà. Il y a eu des enfants jusque très tard. Et c'est une belle nuit. C'est vraiment un truc qui n'est pas complètement quadrillé, complètement contrôlé. Et puis, le lendemain, quand les obsèques officielles commencent, eh ben, tout ce qui doit disparaître, disparaît. Et là, le protocole prend place.
Alors justement, est-ce que c'est simplement l'effet de déchirement interne des anarchistes et des révolutionnaires? Est-ce que c'est une réussite, on va dire, d'organisation policière? Qu'est-ce qui fait qu'il ne se passe rien? Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi l'idée que... alors, vous allez dire 1832, c'est l'inverse, mais que les funérailles ne sont pas le bon moment de commencer quelque chose. Enfin, pourquoi rien n'embraye?
Rien en bref. On sent déjà dans les réunions. Il y a eu quelques mois plus tôt les funérailles de Jules Vallès, qui ont tourné à l'affrontement avec la police. Mais bon, Vallès était un grand écrivain, mais n'avait pas l'envergure d'Hugo. Mais ça avait tourné à l'affrontement avec la police. Il y a eu aussi, j'en parle quelques jours avant,
un
affrontement très sanglant. C'était le 14e anniversaire de la Commune au Père-Lachaise. Il y avait la montée au mur des fédérés. Et effectivement, la police est là et très violemment réprime toute sortie du drapeau rouge. Donc c'est vrai que le quadrillage policier est très violent et fort. Mais en même temps, ça les met en colère. Ils ont des besoins de revanche. Mais moi, je pense qu'ils comprennent, parce que finalement, ils seront là, ils vont venir avec leur drapeau rouge, mais la police sait où ils se retrouvent et va confisquer tous les drapeaux avant même qu'ils ne soient sortis de leur gaine. Et il y a déjà des gens dans les réunions qui disent « Mais personne ne voudra de notre révolution. » Là, on sent bien que le peuple est avec Victor Hugo. Mmh. Le peuple veut la fête. Donc, le peuple ne veut pas de la révolution à ce moment-là. Même plus, enfin en tout cas. Et il y en a un qui dit d'ailleurs, mais on va finir protégé par la police contre le peuple. Et donc, ils y vont certains avec juste parce qu'ils veulent en être, ils sont très attachés à Hugo. Ils y vont parce qu'il faut en être. D'autres y vont en regrettant de ne pas avoir pu utiliser cette présence. Oui. C'est une telle concentration populaire, tout révolutionnaire rêverait de ça, mais c'est l'enterrement de Victor Hugo. Et donc, on sent bien. Parce qu'on leur confisque leur drapeau, on a eu peur pendant 15 jours, mais finalement, on ne trouve pas d'armes, on ne trouve rien du tout. Donc finalement, les révolutionnaires eux-mêmes voulaient être présents, mais n'étaient pas prêts pour la bagarre.
Sans compter que selon un usage ancestral, les groupes révolutionnaires sont largement composés d'indicateurs et de membres de la police à des degrés divers, ce qui est toujours... Je pense que vous avez vu ça aussi beaucoup dans les archives, ce qui est toujours un peu amusant... Il est un peu triste rétrospectivement de voir la représentation de ces gens-là. Alors, du coup, effectivement, on l'a pas évoqué, mais le Panthéon, c'est aussi une façon d'éviter le Père-Lachaise.
Oui.
C'est-à-dire que c'est très important parce que la famille, une partie de la famille d'Hugo est enterrée au Père-Lachaise, donc puis c'est le grand cimetière parisien. Mais sauf que le Père-Lachaise en 1885, c'est plus le mur des fédérés que le Père-Lachaise, oui, jusqu'à un certain point. Et que, je pense que sans compter sa situation géographique, comme vous l'évoquiez, dans le nord-est de Paris, c'était quasiment, pour le coup, on peut imaginer, si on faisait de l'histoire contrefactuelle, comme on dit, qu'un enterrement au Père-Lachaise aurait probablement suscité quelque chose de complètement différent. Là, c'est pour le coup, le gouvernement a fait preuve d'une clarté de vue assez grande à ce sujet.
Bah, de toute façon, le gouvernement a pris deux décisions, celle du lundi dont on a parlé et celle de l'itinéraire qui a été changée, puisque l'itinéraire, de toute façon, devait passer par les grands boulevards, donc traverser la Seine, et les grands boulevards étaient quand même des quartiers populaires. Passer par la place de la République, qui était une place tellement emblématique, tellement défendue par Victor Hugo. Mais le gouvernement a annulé tout ça en disant que c'est des zones qu'on ne pourra pas contrôler. Donc effectivement, le cortège est passé par la Concorde, le boulevard Saint-Germain, donc toutes les rives aristocratiques en fait. Tout ça est passé dans les beaux quartiers et n'a pas quitté les beaux quartiers.
Vous parlez de la calme rive gauche. Oui. Quand on connaît Paris, c'est une définition assez exacte. Oui. Alors, j'aurais voulu évoquer, il y a un moment, vers la fin du livre, il y a ce... Avant de mourir, il a quand même cette espèce de cri étrange qui est « Aimez-moi ».
Oui.
Comment vous interprétez cet « Aimez-moi » de Victor Hugo ? Est-ce que... Parce que, comme vous l'évoquiez au début... Toute la fin de vie de Victor Hugo est en fait quasiment entièrement dédiée aux honneurs qui lui sont... Enfin, il continue à écrire, mais comme l'essentiel de son œuvre est derrière lui, c'est plus... c'est comme, effectivement, c'est un peu... Alors, pour le coup, c'est un syndrome qu'on connaît chez les écrivains d'un certain âge, où les fins de vie sont dédiées aux honneurs. Mais donc, l'épreuve d'amour, il en reçoit presque quotidiennement, si l'on veut. Malgré cela, est-ce que pour vous, c'est une sorte de clé d'explication de l'œuvre de Hugo ? Est-ce que c'est un cri qui l'anime un peu toute sa vie? Est-ce que c'est... Comment vous voyez ce cri-là?
Oui, alors c'est un cri, effectivement, alors, et qui est à la fois adressé à ses petits-enfants, qui sont autour du lit, les plus proches, les autres sont des amis. mais qui est un cri adressé plus largement. Alors, Victor Hugo, vieux, est un homme effectivement très orgueilleux, très narcissique, parfois insupportable même pour ses meilleurs amis. Mais effectivement, cet émémoire va plus loin. Alors, il y a des gens qui ont travaillé même sur l'enfance de Victor Hugo, il a vécu, ses parents se sont séparés très tôt, il a un frère qui était préféré, puis un autre qui est devenu fou. Enfin, c'est quelqu'un qui est en quête du regard et de l'affection et de l'estime depuis toujours, effectivement. Mais il va transformer ça en un outil d'engagement et de création. Donc, cet émémoire, effectivement, pour moi, résonne, pourrait être le mot-clé de sa vie. Et on parlait de la tendresse tout à l'heure, effectivement, c'est un homme à la fois politique, mais il a toujours écrit avec cette espèce d'affect, il est dans l'affect en permanence, Victor Hugo. Donc, aimez-moi, c'est ne m'oubliez pas, et il a tout fait pour qu'on ne l'oublie jamais.
Est-ce que, parce que comme vous le dites à la fin de votre livre, cet aimez-moi, c'est d'une certaine façon aussi quelque chose que vous dites, non pas en le reprenant vous à la première personne, mais au sens de aimer Hugo, est-ce que au sein de l'œuvre Fleuve de Hugo, vous avez vous un texte qui vous est plus cher qu'un autre, ou est-ce que c'est au contraire, parce que c'est aussi une œuvre dans laquelle on peut picorer si l'on veut, parce qu'il y a un poème des châtiments, un poème de des poèmes de jeunesse, il y a des très très belles choses, enfin on peut prendre des petits morceaux, ou est-ce que vous êtes plutôt sur les gros massifs que sont Les Misérables ou La Légende des Siècles
Il y a un livre que j'adore qui est Les Travailleurs de la Mer, qui est magnifique, mais j'aime beaucoup 93 aussi, enfin, j'ai beaucoup picoré, j'ai pas tout lu, et en plus pour écrire celui-là je me suis dit je vais pas lire du Hugo pendant que je fais ça, parce que c'est un peu écrasant. Hugo, ça reste une espèce de grosse montagne, et ça le reste même quand on a travaillé sur ce livre comme moi pendant 2 ans. Donc je suis comme vous, j'ai des passages de choses vues que j'adore. Dans 93, il y a des échanges entre Danton, Marat. Je me suis dit comment il a fait pour reconstituer le questionnement politique révolutionnaire aussi bien. Il y a des poèmes d'enfance, évidemment, parce que je vous parlais de l'enfance. Et même Demain dès l'aube, c'est devenu un cliché, mais Demain dès l'aube, moi, c'est une émotion d'enfance. Puis je regardais à cette époque le film de Truffaut, Adélage. Enfin, voilà, je peux être à la fois très midinette sur Victor Hugo, un peu plus intellectuelle de temps en temps. Enfin, c'est un tout.
Est-ce que vous pourriez nous lire un peu l'ouverture de votre livre ?
Ils ont peur déjà. Le désordre vient si vite. Depuis la veille, les officiers de paix en faction devant l'hôtel particulier récupèrent les bulletins médicaux dans le vestibule. Ils en font des rapports qui finissent sur les bureaux de la préfecture. Ils sont signés Fégé, chef de la brigade du 16e arrondissement. Nuit relativement calme, dit le dernier, publié à 7h30 ce matin. Mais dans Paris, partout, les crieurs de journaux annoncent la fin. Au point qu'un commissaire de police s'en inquiète, envoie un télégramme au cabinet du préfet. Ne faut-il pas les interdire ? Ce matin même, rue Charlot, un opticien a demandé à un gardien de la paix d'interpeller le colporteur du cri du peuple, qui hurlait les derniers instants. Il ne voulait rien entendre de tel. Il a bouclé sa boutique, escorté l'agent et le vendeur jusqu'au commissariat. Nom, prénom, adresse. Lefèvre Théodore, 39 ans, passage du génie, numéro 10, a bougonné le crieur. Un peu plus tard, même scène, rue Martin, un brigadier est accosté par plusieurs personnes indignées qui lui désignent l'homme qui marche, journal à bout de bras, messager de l'inéluctable. Tout autour, la foule est comme la porcelaine, soudain fragile. Monsieur l'agent, arrêtez-le, faites-le taire. Elle voudrait retenir les jours, même s'il n'en reste que 3, que 2, même si c'est pour demain. Encore une fois, le brigadier mène le vendeur devant un commissaire de police. Nom, prénom, adresse. Saloisy Adolphe, rue de Crimée, 76, répond le colporteur. Le commissaire le sermonne, puis le renvoie dans la rue. Rien d'illégal, ni le journal, ni ce qu'il raconte. Victor Hugo va mourir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Pérignon, pour votre présentation. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez faire signer les ouvrages. Merci.
Merci.